Laudetur Jesus Christus.
Le magazine de Radio Vatican. Présenté par Romilda Ferrotto.
Le conseil des huit cardinaux, réuni pendant trois jours au Vatican autour du pape François, avant une grande réunion de travail sur la famille qui sera suivie du consistoire pour la création de 19 cardinaux. C'est une semaine importante qui s'est ouverte au Vatican. Au Nigeria, les attaques de Boko Haram deviennent chaque jour plus fréquentes et meurtrières. Elles frappent désormais tous les civils sans distinction. Sur fond de grande pauvreté, Boko Haram dit combattre pour l'instauration d'un État islamiste dans le nord du pays. Décryptage dans ce magazine. En France, un évêque utilise Twitter pour annoncer la bonne nouvelle et ça marche. Entretien avec Mgr Giraud en fin d'émission. Première journée de travail ce lundi pour le conseil des huit cardinaux qui s'est retrouvé autour du pape François, la résidence Sainte-Marthe au Vatican, en présence du secrétaire d'État du Saint-Siège, Mgr Pietro Parolin. Créé le 13 avril dernier, ce conseil, je vous le rappelle, a pour tâche d'aider le pape dans le gouvernement de l'Église universelle et dans le projet de révision de la constitution apostolique Pastor Bonus sur la curie romaine. La semaine pourrait être marquée par des avancées dans les réformes ou tout au moins par un coup d'accélérateur dans la révolution entreprise par l'évêque de Rome, Xavier Sartre.
La semaine est cruciale, l'ambiance devient fébrile, mais les informations arrivent au compte-gouttes, souvent polluées par des rumeurs impossibles à vérifier. On sait avec certitude que le pape, le secrétaire d'État et huit cardinaux conseillers ont auditionné trois membres d'une commission chargée d'améliorer l'organisation de la structure économique et administrative du Saint-Siège. La commission de référence sur le Yor sera quant à elle entendue mardi matin, tandis qu'une rencontre est prévue mercredi après-midi avec le conseil des 15 cardinaux qui s'occupent des questions économiques et financières du Saint-Siège. Bref, la gestion des finances et la rationalisation des dicastères de la curie semblent être au cœur de la réflexion et l'annonce de premières décisions concrètes n'est pas exclue. D'autant que c'est la totalité du collège cardinaliste qui converge actuellement vers Rome. Le pape François a convoqué les cardinaux pour une grande session sur le mariage et la pastorale de la famille jeudi et vendredi. Ils assisteront également au premier consistoire ordinaire de ce pontificat pour la création de 19 nouveaux cardinaux, un consistoire qui illustre bien les priorités du pape François. Ce dernier a en effet choisi de privilégier des pasteurs de terrain venus de la périphérie. Sur les 16 électeurs, 12 sont des évêques diocésains, alors que 4 seulement proviennent de la curie.
Parmi les nominations les plus remarquées, celle du discret archevêque de Pérouse, Mgr Gualtiero Bassetti, l'évêque des Cailles, Mgr Chibli Langlois, qui deviendra le premier cardinal de l'histoire d'Haïti, une nation martyre, ainsi que l'archevêque de Ouagadougou, Mgr Philippe Ouédraogo, très connu et apprécié au Burkina Faso pour son dynamisme, son ouverture et son implication dans les réalités locales. À l'âge de 98 ans, Mgr Loris Capovilla, secrétaire historique de Jean XXIII, recevra lui aussi la barrette, un geste perçu comme un hommage au pape qui convoqua le concile Vatican II. Dimanche, au cours d'une visite à une paroisse romaine, le pape François a estimé qu'il fallait extirper le cléricalisme de l'Église, car le cléricalisme est nuisible, a-t-il dit. Il a par ailleurs mis en garde contre les commérages et les médisances qui représentent selon lui le danger numéro un dans les institutions ecclésiales, y compris, a-t-il dit, au sein de la curie du pape. Elles détruisent l'unité de l'Église. On le voit bien en parallèle des travaux du Conseil des huit cardinaux chargés des changements structurels. Une véritable révolution culturelle est en cours au Vatican. Plus de 100 personnes ont été tuées samedi dans un village à majorité chrétienne du nord-est du Nigeria par des hommes armés soupçonnés d'appartenir au groupe islamiste Boko Haram. Au cri d'Allah est grand, les assaillants ont aussi pillé des commerces et des magasins de produits alimentaires, chargé leurs butins dans des voitures appartenant aux habitants et ils ont fui dans la brousse. L'état de Borno, où a eu lieu cette attaque, a été placé sous état d'urgence par les autorités qui tentent de mettre fin à la rébellion islamiste qui a fait des milliers de morts depuis 2009. Mais selon des témoins, il n'y avait pas de force de sécurité dans le village quand les agresseurs sont arrivés. Il y a quelques jours, Boko Haram s'en était pris à un village musulman. Pour Marc-Antoine Pérouse de Monclos, professeur à l'Institut français de géopolitique à Paris 8, si la secte islamiste vise des civils, c'est parce que ces derniers ont été recrutés pour certains d'entre eux par l'armée.
Là, ce qui a changé, c'est que depuis mai dernier, il y a un état d'urgence dans cette région. Il y a des opérations militaires très dures qui sont menées avec des bombardements, y compris par l'armée de l'air, ce qui est quand même la première fois depuis la fin de la guerre du Biafra. Biafra en 1970 au Nigeria. Et surtout, un changement majeur, c'est que le gouvernement s'est aperçu que, à force de tuer des civils, il attisait l'hostilité de la population contre les forces de sécurité et plutôt en faveur de Boko Haram. Et du coup, le gouvernement a mis en place ce qu'on appelle des civilian GTF, qui sont en fait des milices, des auxiliaires, des locaux qui sont embrigadés pour le compte des services de sécurité. Et ça, ça a changé la donne parce que du coup, les forces de sécurité sont beaucoup mieux informées sur la réalité des implantations de Boko Haram dans le Borno. Et du coup, Boko Haram a réagi en commençant à s'en prendre à la population civile, qu'elle soit d'ailleurs musulmane ou chrétienne. On voit qu'il y a à la fois une criminalisation et un dérapage complet de Boko Haram qui se met à tuer des enfants, des femmes, ce qu'ils évitaient de faire avant.
Mais du coup, quoi, Boko Haram part à la dérive, ça veut dire qu'ils se préoccupent plus de leur base sociale?
Ils se mettent à faire n'importe quoi parce que parmi maintenant les villageois, qui autrefois soit les soutenaient, soit en tout cas n'allaient surtout pas coopérer avec les forces de sécurité qui étaient beaucoup plus violentes que Boko Haram. Donc à partir du moment où les forces de sécurité ont mis en place des milices locales qui soutiennent la police et l'armée, alors à ce moment-là, Boko Haram se méfie des villageois qui étaient autrefois ses soutiens. Donc ce qui a changé, c'est qu'aujourd'hui, Boko Haram n'apparaît plus comme une force de résistance contre l'armée à cause précisément de ses milices et du fait que, comme ces milices sont mêlées dans la population, Boko Haram se retourne contre les villageois. Donc Boko Haram est en train de perdre sa base sociale.
Le nouveau chef d'état-major promet d'éradiquer Boko Haram d'ici le mois d'avril, mais est-ce que les militaires en ont les moyens? Est-ce qu'ils jouent à armes égales avec Boko Haram?
L'armée a une armée de l'air, alors ce n'est pas le cas de Boko Haram. Simplement, l'armée est très corrompue, comme l'ensemble de l'État nigérian, et donc effectivement, les soldats ne sont pas très motivés pour aller combattre Boko Haram. C'est ça le vrai problème. Donc quand on demande plus de soldats ou plus d'argent, il faut voir qu'on est déjà dans une situation où, avec justement la proclamation de l'état d'urgence dans cette région, on est déjà à un cinquième du budget de l'État qui est consacré aux forces de sécurité. C'est une proportion hallucinante. Même du temps des dictatures militaires, on n'avait pas eu autant d'argent. Donc il y a derrière tout un business avec beaucoup de détournements de fonds qui sont censés être consacrés à la sécurité et qui font que l'armée n'est pas performante parce que de toute façon, d'une manière générale, les institutions de l'État nigérian ne le font pas du fait de la corruption. Donc l'armée comme la police sont ravagées par cette corruption, par le détournement des soldes, par des officiers. Il y a des soldats qui apparaissent sur les listes qui sont en fait des soldats fantômes qui n'existent pas. Voilà. Imaginez que la solution, c'est de demander plus de soldats et plus d'argent. C'est vraiment une logique du tonneau des Danaïdes.
On dit toujours qu'avant les élections, il y a des recrudescences de violence. Alors là, il y a des élections qui arrivent l'année prochaine. Est-ce que ce sera le cas avec Boko Haram?
Oui, donc on a des élections générales qui vont se dérouler normalement en avril 2015. Donc c'est toujours un enjeu de compétition, y compris pour les primaires des partis en lice qui ont lieu généralement 6 mois avant. Il y a des compétitions entre les candidats qui du coup n'hésitent pas à faire appel aux groupes armés en lice. Donc ça, c'est plutôt inquiétant parce que ça va redonner de la vigueur à Boko Haram, si vous voulez, qui risque à ce moment-là d'être de nouveau instrumentalisé par les caciques locaux pour faire le coup de feu contre l'opposition. Donc ça, c'est à craindre pour ce qui est à venir lors des élections de 2015, en sachant que aujourd'hui, ce dont se plaignent aussi les musulmans du Nord, c'est qu'avec l'état d'urgence, de toute façon, cette région, il ne pourrait pas y avoir des élections. Donc ça, ça reste aussi un point en suspens qu'il convient d'élucider.
Marc-Antoine Pérouse de Monclos, interrogé par Marie Duhamel. L'église copte orthodoxe s'est réunie jusqu'à mercredi au Caire, placée sous le thème « L'église vers un avenir meilleur ». Ce synode se déroule sous la présidence du patriarche Tawadros II. Les participants doivent se pencher sur un projet de modification des règles de l'élection du patriarche qui nécessite d'une mise à jour. Entre autres choses, ont été enregistrées des incohérences dans la distribution des quotas d'ayants droit qui pénalisent par exemple la consistante communauté d'Alexandrie. En outre, la procédure actuelle d'élection du patriarche ne prévoit aucune participation des communautés coptes de la diaspora, alors même qu'au cours de ces dernières décennies, elles ont enregistré une progression numérique impressionnante portant à la création de diocèses coptes orthodoxes dans le monde entier. Le Conseil pontifical pour les migrants et les personnes en déplacement a lancé ces jours derniers un appel en faveur d'un usage plus rationnel et responsable de l'eau douce. À l'occasion de la tenue à Milan de la Bourse internationale du tourisme, le président et le secrétaire du Dicaster ont réclamé des politiques adéquates. Les industries touristiques sont en effet de grandes consommatrices d'eau. Elles peuvent devenir un allié de taille au service de la préservation et de la protection de l'environnement ou bien son pire ennemi. Cyprien Viette.
Pour le Dicaster de la Curie romaine, il est urgent de protéger la nature si on veut éviter la multiplication des catastrophes naturelles qui résultent des négligences humaines. On ne peut se contenter de réparer les dégâts provoqués par les inondations, a lancé le cardinal Velio. Il faut agir en amont, notamment en préservant les précieuses ressources en eau de la planète. En tant qu'activité socio-économique de tout premier plan dans le monde, le secteur touristique peut jouer un rôle moteur et pédagogique contre le gaspillage de l'eau. La présence d'eau est en effet un élément primordial dans le choix d'une destination par les touristes occidentaux, qui représentent plus de la moitié des touristes internationaux. Or, un touriste utilise 4 fois plus d'eau que la population locale, et sous les tropiques, cela monte à 7 à 10 fois plus d'eau, avec des conséquences lourdes pour les pays d'accueil. Le Conseil pontifical pour les migrants plaide en faveur d'un tourisme responsable qui garantisse le respect de l'environnement. L'humanité doit comprendre qu'elle a le devoir de gérer l'eau intelligemment. Cela passe par un changement des mentalités, y compris dans le secteur du tourisme.
En Suisse, la Commission nationale d'éthique s'est prononcée en faveur du diagnostic préimplantatoire en cas de procréation assistée. La technique qui permet d'analyser un embryon conçu in vitro avant son implantation dans l'utérus pour y dépister d'éventuelles anomalies sera prochainement débattue par les parlementaires fédéraux. En septembre dernier, la commission de bioéthique de la Conférence des évêques suisses avait dénoncé le risque de dérapage. Elle craint que cette pratique médicale soit une porte ouverte pour l'entrée dans une ère de pratique eugéniste. Pour la commission des évêques, une société est authentiquement humaine lorsque, tout en luttant contre la souffrance et la maladie, elle se montre capable d'accueillir chaque personne dans sa dignité et de faire une place aux plus petits et aux plus vulnérables des enfants des hommes. Forte de ce principe humaniste et évangélique, l'Église refusera toujours de considérer le tri, la sélection et l'élimination d'êtres humains comme un progrès. En France, cela fait 3 ans que Mgr Hervé Giraud, évêque de Soissons, est inscrit sur le réseau social Twitter. Depuis, il a publié plus de 1200 tweetomélies. Ces publications sont rassemblées dans un recueil publié cette fois sur le papier aux éditions Parole et Silence. Le mois dernier, lors des journées d'études François de Sales à Annecy, Mgr Giraud avait raconté comment Twitter avait changé sa façon de communiquer. Alors comment est-il devenu un précurseur sur ce réseau social ? Audrey Radondi lui a posé la question.
Un jour dans une conférence à Paris, la manière dont je tenais mon blog, ma page internet du site de mon diocèse. Et lorsque j'ai eu terminé ma conférence, quelqu'un est venu me voir en me disant « Mais ce que vous écrivez sur la parole de Dieu, le petit commentaire, ça a la dimension d'un tweet. » Alors j'ai demandé « C'est quoi Twitter ?» J'ai un peu entendu parler, mais j'ose pas me mettre sur ce réseau. Et quand j'ai vu de quoi il retournait, bien, je me suis immédiatement inscrit. C'était exactement il y a 3 ans, puisque c'était le 23 janvier 2011. Donc j'ai essayé d'être régulier tous les jours, de mettre cette petite homélie et de garder ma posture d'évêque avec une déontologie précise et de rester vraiment celui qui annonce d'abord la parole de Dieu. Et donc c'est vrai aussi que j'étais parmi ceux qui disaient à Rome qu'il fallait que le pape y soit. Et je me suis réjoui quand le pape Benoît XVI s'est mis sur Twitter parce que ça a été comme une confirmation non seulement pour moi, mais pour beaucoup de blogueurs catholiques, de tweetos catholiques, lorsqu'il avait dit dans la substance de brefs messages, on peut exprimer des pensées profondes. Et finalement, ça nous a permis de dire, oui, on peut habiter ce réseau, ce n'est pas interdit, et c'est vraiment une manière d'être présent, comme Jésus était présent dans tous les milieux qu'il rencontrait de ville en village.
Vous êtes donc l'inventeur de la tweetomélie, qu'est-ce que c'est ?
J'ai pris ce mot de tweetomélie, j'ai beaucoup réfléchi le 23 janvier 2011, je me suis dit tweetomélie, c'est pas une homélie, donc en mettant le mot tweet devant, ça voulait bien dire que c'était pas tout à fait une homélie c'est bien en direct, mais en même temps c'est bien une homélie parce que je la dis aussi chaque jour aux personnes à qui je dis la messe et avec qui je célèbre l'Eucharistie. Donc c'est bien de l'ordre de l'homélie et sur Twitter, donc une homélie sur Twitter. Et j'ai trouvé que le mot allait bien, j'ai enlevé simplement le H pour que ça soit plus simple en italien. J'ai essayé de penser ça un peu plus universellement. Et voilà, ça a donné un hashtag, comme on dit, un mot dièse, c'est-à-dire un mot-clé qu'on peut retrouver. Et beaucoup maintenant en Italie, mais aussi des Français, des prêtres ou des fidèles laïcs, ont repris ce mot tweetomélie lorsqu'ils commentent la parole de Dieu.
Et quel est le profil des personnes qui sont abonnées à votre compte ?
J'ai plus de 5000 abonnés de 40 pays différents. Donc il y a notamment beaucoup d'Italiens, d'Espagnols, mais aussi beaucoup d'Amérique du Sud et du Québec, et puis évidemment majoritairement de France. Ce sont des profils de jeunes, principalement des 25-45 ans. Je commence à voir apparaître des personnes un peu plus âgées qui ont du temps et qui commencent à aller sur ces réseaux sociaux, dont Twitter, et qui découvrent qu'il y a la présence aussi d'un lieu de spiritualité, qu'il y a des petites perles évangéliques. et que ça peut être aussi un service à leur rendre que d'y être présent.
Et justement, quel dialogue vous avez installé avec vos différents followers, comme on dit, ceux qui vous suivent sur Twitter ?
Petit à petit, certains découvrant qu'il y avait un évêque ont demandé à les rencontrer. Il y a eu par exemple les blogueurs catholiques qui se sont rencontrés à l'occasion de ce qu'ils appellent la fraternité des amis de Saint-Médard. C'était une occasion où ils pouvaient à la fois prier, aller à la messe, et ces blogueurs partageaient et tout. Et un jour, ils m'ont beaucoup, beaucoup invité à venir et je suis venu. Ce qui m'a permis de connaître les visages de ceux qui avaient des pseudonymes. Et ils m'ont beaucoup remercié de venir les rencontrer, de leur parler, parce qu'ils se sont sentis encouragés à bloguer, c'est-à-dire à donner leurs réflexions, à admettre des commentaires, parfois difficiles, sur des sujets de société ou politique. Et c'est ainsi que, petit à petit, j'en ai rencontré un certain nombre. Évidemment, je ne l'ai pas rencontré les 5000 qui me suivent, mais j'en connais quand même quelques centaines.
Et quel regard vous portez donc aujourd'hui sur les tweets du pape François ?
Ce qui est apprécié et appréciable, c'est qu'il sait trouver des mots simples et toucher les gens. Ce sont des petites perles qui sont comprises par tous. Il vise vraiment ces 10 millions d'abonnés et je trouve qu'il a un langage, des images, des sentiments, des idées. Il parle souvent de la tendresse, par exemple, et qui sont comprises de tous. Et ça, je trouve que c'est très important. Je souhaiterais maintenant, peut-être, qu'il y ait aussi un lien vers ces principaux textes ou messages pour qu'on puisse aller lire un peu plus, pour qu'on n'en reste pas simplement à un tweet, mais un texte un peu plus long, profond. Et c'est ce que je trouve l'intérêt de Twitter, c'est que c'est un lieu d'information très précis et très avancé.
Et quel changement avez-vous remarqué depuis que vous tweetez ?
J'ai élargi d'une certaine manière ma mission, non seulement à mon diocèse, mais à plus large que mon diocèse. Un évêque, c'est vrai qu'il est évêque d'un diocèse, principalement, mais il est aussi membre du collège des évêques. Et donc, c'est vrai qu'on doit avoir une sollicitude, dit le Concile, une sollicitude pour l'Église universelle. Donc, c'est ma manière d'avoir cette sollicitude vis-à-vis de l'Église universelle que de transmettre cette petite parole sur Twitter. Ça a changé quand même aussi mon rapport à l'information. Je m'informe à partir de mon fil Twitter, qui me sert de fil d'information. Et puis, ça a changé aussi mon rapport à la communication. J'essaye d'être plus positif encore, de respecter encore plus les points de vue des autres, de dire plus, mais en peu de mots. J'essaie de prendre au sérieux ceux qui ont des idées différentes que je lis sur le fil de Twitter aussi. Ça transforme un certain nombre de pratiques. Du moins, ça les prolonge. Ça les épanouit un peu plus, puisque ça a changé aussi beaucoup. C'est que depuis 3 ans, ça m'a fait connaître publiquement. Ce n'était pas cherché, mais j'ai donné beaucoup d'interviews, beaucoup de radios, de télé, de magazines. Donc, il faut gérer aussi un peu ça, parce qu'on est un peu plus exposé. Et mon but, c'est quand même d'abord de servir l'Évangile, servir la parole de Dieu, c'est pas de me montrer.
Est-ce que vous savez si d'autres évêques ont pris votre suite maintenant et qui se sont mis sur Twitter ?
Alors, au début, les évêques étaient un petit peu méfiants tout de même. Peut-être parce que, bon, ça remonte à loin, mais il y avait eu le procès que j'avais fait contre Facebook. Et certains me disaient, mais tu as eu ce problème et tu continues sur Twitter. En fait, moi, je n'étais pas sur Facebook quand j'ai eu ce problème. C'était une question d'usurpation d'identité. Mais j'ai dit, c'est pas parce qu'il y a eu un accident qui n'était pas de ma faute que je reprends pas ma voiture. Et là, c'est même pas ma voiture. Je reprends une moto. Enfin, c'est autre chose. Twitter, c'est un autre type de réseau ou de médias sociaux. Ça n'a rien à voir avec Facebook. Et petit à petit, je leur ai expliqué ce que c'était, ce que je faisais. Et on a un peu moins souri de ma pratique quand les papes s'y sont mis. Et puis, quand on a vu aussi que dans les informations en France, on parlait beaucoup de Twitter, on a lu sur Twitter. Donc, c'est quelque chose qui s'est fait par capillarité. Maintenant, tout le monde connaît un peu ce mot-là. Et donc, maintenant, il y a 12-13 évêques qui sont sur Twitter. Alors, tous ne tweetent pas eux-mêmes. Certains, c'est leur directeur de la communication. Mais moi, je tiens vraiment à ce que ça soit ma propre parole. J'ai voulu toujours avoir une déontologie très stricte. C'est-à-dire, je tweete en tant qu'évêque et je ne tweete que sur la parole de Dieu, principalement. De temps en temps, je peux retweeter telle ou telle parole du pape avec un texte, mais c'est assez rare pour ne pas trop aller vers l'actualité ou parce que ça serait trop envahissant pour le peu de temps que j'ai.
C'était l'évêque de Soissons en France, Mgr Hervé Giraud. Et puis sachez que le prince Albert II de Monaco a adressé un chèque de 20 000 euros à la commune de Chilly-Mazarin dans l'Essonne. La famille Grimaldi a des liens historiques avec cette ville, ce qui explique la participation du souverain monégasque aux travaux de réfection de l'église. Ils doivent débuter en septembre et sont toutefois estimés à plus d'un million d'euros. En France, le financement des travaux de rénovation des églises constitue un dossier douloureux. Les subventions devenues non, difficile à décrocher. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. N'oubliez pas de nous retrouver également sur internet radiovaticana.va ainsi que sur Facebook Radio Vatican en français.